Le journal, Claude Bousset.
Kinshasa, ville sans armes, les patrouilles mixtes vont circuler dans la ville à partir de ce mercredi avec pour but de vérifier si toute personne portant une arme a la permission requise pour ce faire. Les conditions de sécurité sont réunies pour un deuxième tour des élections dans les bonnes conditions à l'est du pays, l'affirmation du vice-président Azarias Roubérois en visite dans cette partie de la nation. La synergie des luttes contre les violences sexuelles au Kasaï occidental s'inquiète du nombre croissant des cas de viol dans cette province. Elle déplore surtout les arrangements entre familles, ce qui ne permet pas à la justice de faire son travail. Journée internationale du tourisme, beau pays du tourisme congolais, Bounia a beaucoup perdu de sa réputation à cause de la guerre. Le bureau du tourisme de l'Ituri veut ressusciter de ses cendres. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Kinshasa, ville sans armes, le projet se met en marche, des patrouilles mixtes vont sillonner à travers la ville. Le porte-parole militaire de la MONUC l'a confirmé lors du point de presse hebdomadaire de ce mercredi. Je vous propose d'écouter le lieutenant-colonel Stéphane Lescofitte au micro de Willy Akonda.
Ces patrouilles, c'est le programme, toute la structure n'est pas encore établie à 100%, mais ça ne devrait pas tarder. Le but de ces patrouilles, donc, c'est de circuler partout dans Kinshasa, de contrôler toute personne en armes dans Kinshasa, savoir si elle porte une arme de manière réglementaire, non pas si elle est bien portée, mais si elle a le droit de porter cette arme dans Kinshasa. Contrôler qui ? Les militaires, les policiers, toute personne qui porte une arme. Et dans ces patrouilles, donc, il y aura des éléments de la police nationale congolaise, des éléments de la police militaire, des FRDC, des éléments FPU qui sont la police de... La police, j'irais de la MONUC, et ensuite la MONUC en tant qu'observateur, et EUPOL aussi en tant qu'observateur.
C'était là le lieutenant-colonel Stéphane Lescofitte, porte-parole militaire de la MONUC. Les conditions de sécurité sont suffisamment bonnes pour que le deuxième tour de la présidentielle se déroule dans le calme. Déclaration de Azarias Roubérois Maniwa au cours d'un point de presse tenu ce mercredi à Bukavu. Le vice-président chargé de la défense et sécurité est en visite à l'est du pays en compagnie de quelques membres de sa commission. Ses propos ont été recueillis par Dieudonné Bagaloua.
Sur le plan sécuritaire, nous pouvons dire qu'il y a suffisamment de sécurité pour aller aux élections. Et ça, c'est encourageant. J'ai fait le Nord Kivu, Bounia. Je pense qu'il y a plus de conditions de sécurité au Sud Kivu que dans les deux autres provinces. Même si là aussi, avec un peu de doigté, il est possible de tenir les élections sans beaucoup de heurts. Je me suis également rendu compte que le service en général en province travaille de manière complémentaire et efficace. J'ai parlé avec les responsables de l'armée, de la police, les responsables de la justice civile et militaire, avec les communautés, pour me rendre compte notamment du degré de tolérance et d'acceptation entre les communautés. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important dans ces temps et par rapport au passé.
Après un séjour de 48 heures à Bukavu, au Sud Kivu, le vice-président Azarias Roubérois a quitté le Sud Kivu ce mercredi pour Kisangani, en passant par Goma. Au Nord Kivu, la population était appelée à sortir dans les rues de Minova pour protester contre l'assassinat d'un homme tué mardi soir dans cette cité, localité située à la frontière entre le Nord et le Sud Kivu. La victime, un important opérateur économique de la place, est le deuxième commerçant tué ce mois-ci à Minova. Un reportage de Gisèle Cage.
La victime âgée de 30 ans, répondant au nom de Muziki, a été tuée d'une balle dans la tête par deux hommes armés devant sa résidence aux environs des 19 heures. Selon des témoins, dont celui de la 2e, les assassins se sont présentés chez la victime au motif qu'ils voulaient lui parler. Une discussion s'en est suivie. Le meurtrier ont alors récupéré tout l'argent que possédait le commerçant. Les deux hommes n'ont pas hésité à lui loger une balle dans la tête. Ce lundi matin, la population avait été appelée à sortir dans les rues de Minova pour protester contre cet assassinat. Mais cet appel de l'ancien administrateur résident Kifwa n'a pas été respecté. Selon certains habitants et M. Kifwa, il s'agirait d'un règlement des comptes. La victime disposait d'importantes maisons de commerce à Minova et des véhicules qui effectuent le transport entre Minova et Goma. Selon les services de la DGM, depuis hier soir, plusieurs jeunes gens des quartiers sous-marins de Minova, un quartier qui héberge un grand nombre de jeunes délinquants et des bandits armés, sont interrogés par des éléments de la 106e brigade de la 10e région militaire des FRDC. Gisèle Cache, Goma, Radio Okapi.
Les travaux bégayent un peu à la nouvelle Assemblée nationale. C'est demain qu'ils vont reprendre dans cette chambre basse du nouveau Parlement après 2 jours d'interruption. Les différentes commissions de vérification pour validation de mandat des députés n'ont pas pu mener à bien leur tâche à cause du manque des dossiers de plusieurs députés. Et ces dossiers devraient venir de la commission électorale indépendante. Pour le président du bureau provisoire, aucun effort ne sera ménagé pour que le lundi 2 octobre prochain, la séance de validation des dossiers soit clôturé. Joseph Mbenzatoubi, joint par Kéline Kouté.
Maintenant, les documents viennent d'arriver. La commission électorale indépendante s'est forcée de les faire photocopier et nous les avons présentement. Et donc, ça n'a été que pas permis. Je suis convaincu que demain, nous allons faire un communiqué pour que tous les parlementaires, toutes les commissions siègent de manière à rattraper le temps perdu. Et j'espère qu'on sera dans les délais. Nous maintenons la date du 2 octobre. Mais nous avons d'ailleurs vu le samedi que cela était nécessaire si certaines commissions ne parvenaient pas à terminer et qu'elles estiment nécessaire d'avoir 1 ou 2 jours supplémentaires, nous les leur accorderions. Dans l'ensemble, nous pouvons espérer que le 2 octobre, nous pourrons avoir une plénière pour la validation des mandats des députés.
Mbenzatoubi Joseph, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. À quelques jours du début de la campagne au Katanga, 15 candidats à la députation provinciale se sont désistés. Ils ont écrit au bureau provincial de la CEI. Pour Ramazani Massoudi Magobo, chargé de la formation à la CEI Katanga, ces désistements tardifs ne seront pas pris en compte car il est impossible présentement de changer les bulletins de vote. Ramazani Massoudi Magobo, chargé de la formation à la CEI Katanga, au micro de Kalenge Yantumbi.
On ne peut plus tenir compte d'un désistement quelconque dans la mesure où il nous sera très difficile de pouvoir demander à la société qui est en train d'imprimer, qui est presque à la fin du travail, d'enlever le nom de tel ou tel candidat parce que il a déposé à la CEI une lettre de désistement. Lorsqu'on nous place dans ces conditions, nous sommes en tout cas obligés de ne pas tenir compte de cette lettre-là de désistement. D'autant plus que lors des élections, la personne qui a désisté en dehors du délai verra toujours son nom apparaître sur les bulletins de vote. C'est que c'est un désistement qui est nul et non avenu pour la CEI.
La synergie de lutte contre les violences sexuelles au Kasaï occidental s'inquiète du nombre croissant de cas de viol enregistrés ces derniers mois dans cette province. 37 cas en moins de 6 mois. La synergie des luttes contre les violences sexuelles du Kasaï occidental et ses partenaires déplorent surtout les arrangements entre les familles des victimes et des auteurs de viols qui ne permettent pas aux victimes d'obtenir justice, comme le dit Marie-Chantal Lumba dans ce reportage.
Le dernier cas en date enregistré par la synergie de lutte contre la violence sexuelle est celui d'une fille de 12 ans dans le territoire de Demba, une localité située à 65 km de Kananga. Selon la mère de la victime, c'est un responsable administratif du territoire de Demba qui est l'auteur. La mère ajoute qu'après un compromis à l'amiable, il était question que ce dernier paye une amende en espèces et quelques chèvres. Il est venu nous demander pardon en disant que c'était le diable qui l'avait tenté. Il nous a promis de nous donner tout ce que nous allons lui demander pour mettre fin à cette affaire. Nous avons accepté parce qu'il nous a demandé pardon. Mais curieusement, maintenant que l'affaire est connue de tous, il dit qu'il ne va plus rien nous donner. C'est pourquoi nous avons apporté l'affaire à l'amour. Interrogé, l'UNICEF, l'un des partenaires qui soutient la structure de lutte contre les violences sexuelles, condamne ce genre de disposition à l'amiable. Pour Alex Kapalou, responsable de la protection de l'enfant à l'UNICEF Kananga, ces arrangements ne résolvent en rien les puneux problèmes de la violence sexuelle. À toutes les victimes de ces violences, Alex Kapalou recommande de briser le mur du silence pour lutter contre l'impunité. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Kapi.
Au Kasaï occidental, début des travaux de construction des logements sociaux, c'est à Chipuka, un nouveau site situé à 20 km de la ville de Mbujimayi. Selon le directeur de l'entreprise de construction LEC, laboratoire d'études de construction, ces travaux vont durer 1 année. Toujours selon lui, l'évolution des travaux dépendra de la suite de financement de ce projet. Emmanuel Elamiji.
Il s'agit de la construction de 300 logements sociaux annoncés depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Ces logements seront construits sur le site de Chipuka. Le coup d'envoi a été donné hier mardi dans cette localité située à environ 20 km au sud de Mbujimayi sur la route de Mweneditu. Selon le chef de division à l'urbanisme et habitat, c'est un projet de son ministère financé par la Banque mondiale. Pour Sami Tshibangu, directeur de l'EC, laboratoire d'études et construction qui exécute ces travaux, il s'agit d'un type de maison moderne d'une dimension de 92 mètres carrés. Il s'agit aussi d'une cité moderne qui répondra aux normes urbanistiques. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Kasaï-Oriental qui s'est rendu sur le terrain dit avoir convaincu la population de cette localité qui voulait s'opposer à ces projets pour motif d'exploitation des travaux champêtres. Patrick Baloubalogi ajoute que ces maisons seront attribuées à toute personne qui aura manifesté le désir d'y habiter. Les autorités provinciales s'en félicitent car c'est pour la toute première fois que le Kasaï-Oriental sera doté d'une cité aussi moderne. Emmanuel Elamejo Akabedi, Mbujimayi, Radio Okapi.
En province orientale, dans les districts du Bazouélé, le pont reliant les territoires de Bondo et de Ango a été réhabilité. Ce pont long de 145 mètres sur la rivière Api est l'œuvre des missionnaires protestants et catholiques. Il a été réhabilité 10 ans après avec le concours de la population. Et Godlive Omondo nous fait savoir que le coût des travaux est évalué à 400 000 dollars américains. Reportage.
Bondo et Ango sont séparés l'un de l'autre sur une distance de 400 km. Les échanges commerciaux entre les deux chefs-liers des territoires étaient interrompus en 1995 à cause de l'effondrement d'un pont les reliant sur la rivière Api au point kilométrique 260. Pour désenclaver ces deux territoires et réhabiliter les échanges commerciaux, Liv Godin, une Norvégienne missionnaire protestante en retraite, a pris l'initiative de lancer un pont sur la rivière Api. Un montant de 400 000 dollars américains est mis en jeu, dont 30 000 des missionnaires catholiques comboniens. Le pont, long de 145 mètres, construit avec des pierres soutenues par 17 voûtes, a été inauguré la semaine dernière à la grande satisfaction de toute la population. Désormais, des véhicules de 10 à 15 tonnes transportant des produits agricoles et autres produits manufacturés en provenance de la République centrafricaine y peuvent passer, partant de Bondo à Ango, avec la possibilité d'atteindre Isiro dans le Haut-Touélé. Aliana Ali Panagama, Kisangani, Radio Okapi.
Journée internationale du tourisme en Ituri, jadis une des fiertés du pays. Le secteur touristique a sombré. Il accuse d'énormes manques à gagner suite à l'absence de sécurité. Plusieurs sites sont détruits, d'autres occupés par les hommes en armes. Les voies d'accès sont insécurisées parfois. Ce sont là quelques obstacles que relève le bureau du tourisme de l'Ituri. Basile Bakumbane l'a visité. Reportage.
Jadis, on faisait beaucoup de recettes, plusieurs visiteurs venaient visiter les sites de Moyo, la chaîne de Mont Bleu en soi aussi, dans son ensemble, la réserve de faune à Okapi, à Ipoulou, les beaux paysages du lac Albert. Cette industrie-là faisait beaucoup de recettes à notre État et actuellement l'État ne bénéficie plus de ce qu'il profitait jadis. Et les hommes armés, les hommes en uniforme occupent les sites. Ils empêchent même aux visiteurs d'y accéder. Maintenant, nous sommes bloqués, nous ne sommes plus à la mesure de surveiller ni de contrôler ces secteurs et nous sommes embrouillés suite à cela.
Un membre du bureau du tourisme de l'Ituri qui parlait des projets de ce bureau. Elle était au micro de Basile Bakumbane. Nous allons nous rendre dans le sud Kivu pour terminer ce journal, précisément à Uvira, où le comité des parents et les enseignants de l'Institut Mwanga ne s'entendent pas autour de la prime à donner aux enseignants. Cette prime doit passer de 2 à 3 dollars par mois et par élève cette année. Ce matin, plus d'un quart d'élèves se sont retrouvés dans la rue, chassés pour n'avoir pas respecté cette augmentation. C'est un reportage de Fiston Ngoma Mayabala.
Mercredi, on pouvait observer dans la cour de l'Institut Mwanga comme dans les rues d'Uvira, plusieurs dizaines d'élèves qui ont été chassés pour n'avoir pas payé la prime des enseignants. Depuis lundi, les enseignants de cette école ont augmenté la prime. Selon le porte-parole des enseignants de Mwanga, Edouard Mukubwa, cela est dû aux charges supplémentaires qui ont été ajoutées au programme scolaire cette année. En plus, les coûts de vie actuels d'Uvira, selon lui, ne permettent plus aux enseignants de faire face à leurs obligations. Au cours d'une réunion qui se tenait le week-end dernier, le parent avait accepté que l'augmentation de la prime soit effective dès le mois prochain. Mais les cours ont été suspendus mardi lorsque des responsables du comité de parents ont annoncé le maintien de la prime à 2 dollars jusqu'à l'aboutissement des négociations. Une assemblée générale est convoquée pour samedi prochain entre les deux parties. Fiston Ngoma Mayabala, Uvira, Radio Okapi.
C'est ici que prend fin ce journal. Avant de vous quitter, le rappel des titres. Kinshasa, ville sans armes. Les patrouilles mixtes vont circuler dans la ville à partir de ce mercredi avec pour but de vérifier si toute personne portant une arme a la permission requise pour ce faire. Les conditions de sécurité sont réunies pour un deuxième tour des élections dans le calme à l'est du pays. Affirmation du vice-président de la République, Azarias Roubérois, en visite dans cette partie de la nation. La synergie des luttes contre les violences sexuelles au Kasaï occidental s'inquiète du nombre croissant de cas de viol dans cette province. Elle déplore les arrangements entre les familles qui ne permettent pas à la justice de faire son travail. C'est journée internationale du tourisme au pays ici. Bounia a beaucoup perdu de sa réputation à cause de la guerre. Madame Bernadette Ondiro du bureau de tourisme de l'Ituri a donné les conditions des résurrections de cette institution, de ces centres dans cette partie du pays. Merci à Eddy Marquis pour la mise en œuvre de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous. Au Kabi. Au Kabi.